Europe 1.
Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour tout le monde.
Bienvenue dans votre émission Bien fait pour vous, celle qui prend soin de vous et de vos proches tous les jours en direct jusqu'à midi. Et ce matin Mélanie, on va aborder quel sujet ?
Alors on va parler pépette, argent, flouze, on va se poser cette question. Avez-vous la fièvre acheteuse ? Êtes-vous plutôt radin ou panier percé ? Bien souvent notre rapport à l'argent en dit long sur notre personne et même sur nos relations avec les autres. Alors à la veille des soldes d'été, on va détailler tout ça et donc pour bien faire, nous recevrons Joseph Agostini. Il est psychologue clinicien et psychanalyste. Il est également l'auteur du livre « Je dépense comme je suis » aux éditions Le Duc.
Après cela, Mélanie, à 11h45, ce sera notre partie tendance. Tout d'abord, Soizic Belin va nous initier à l'art de la mixologie. C'est de plus en plus à la mode. C'est le fait de savoir fabriquer ses propres cocktails. Ça s'apprend aujourd'hui dans des stages et on peut pratiquer cet art en toute modération, bien sûr. Et puis après l'apéritif avec Soizic, c'est avec Marion Sauveur que nous nous mettrons à table. Enfin, on jettera une petite nappe sur l'herbe pour faire un bon pique-nique ce midi. Ce sera des suggestions pour un pique-nique charcutier que Marion nous a composé. Je pense qu'on va tous se régaler.
Je pense, j'ai faim déjà.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes en direct avec vous jusqu'à midi. Notre question du jour, la voici, vous avez-vous la fièvre acheteuse ? Alors avant de se mettre dans une ambiance très reine du shopping, on va déjà étudier le rapport à l'argent vu par Clément Lanoux. Bonjour Clément !
Bonjour tout le monde, il faut savoir que la fièvre acheteuse concerne 5% de la population mondiale. L'action d'acheter peut se transformer en véritable cauchemar. En effet, les victimes sont victimes d'oignomanie. On est un oignomane. À ne pas confondre avec Oignoman, qui serait un super-héros qui pleure quand on l'épluche. Rien à voir. Alors, qui sont ces acheteurs compulsifs ? C'est bizarre. Quand on commence à avoir, par exemple, plus de voitures que d'enfants, c'est le cas. Cristiano Ronaldo, 30 voitures de sport et 4 enfants. Croyez-vous qu'il avait l'idée d'acheter un break ? Même pas. Il est obligé de faire deux fois l'aller-retour à l'école pour emmener les enfants, une vraie galère. Alors non, il ne faut pas confondre les collectionneurs comme Cristiano Ronaldo qui aime collectionner les voitures, qui lui va chérir son achat. Alors que là, on parle de personnes qui aiment la transaction, des personnes qui aiment payer. Si vous en faites partie, j'aimerais vous avoir comme ami. Des personnes qui adorent payer, c'est toujours pratique. Et le plus connu des oignomanes, peut-être que vous le connaissez si je vous mets cette musique. On parlait de lui il y a quelques jours.
C'est qui ça ?
C'est la musique de Pirates des Caraïbes.
Ah, oui, Johnny Depp.
Oh, j'adore Johnny Depp.
Connu justement pour avoir la fièvre acheteuse, j'ai des chiffres. En 20 ans, la star a dépensé 480 millions de dollars, soit en moyenne 55 000 dollars par jour.
Wow.
Il faut le faire, c'est-à-dire qu'il y a des jours où on n'a pas envie de sortir du lit. Il se dit, wow, j'ai la flemme de sortir. Allez, lève-toi, t'as 55 000 dollars à dépenser. Je ferai 100 000 demain. Non, ça marche pas comme ça, Johnny. Sors dehors, voilà, ça doit être dur. Alors, comment déceler cette addiction ? Sachez que ça peut changer votre humeur. Si l'achat n'est pas réalisé, vous n'êtes pas comblé, vous pouvez tomber en dépression. Les achats perturbent tout votre quotidien. Donc, rassurez-vous, j'ai la solution. Depuis maintenant le début de l'année, je travaille avec vous dans une émission quand même tournée sur la santé. Alors, ce que je vous propose, c'est de lier ça, la fièvre acheteuse, ouais, avec d'autres pathologies que j'ai découvertes dans l'émission. Et vous allez voir que si vous avez les deux, ça s'annule. Voici les trois meilleures pathologies avec lesquelles on peut mixer ça.
Numéro 3.
Numéro 3, vous mettez la fièvre acheteuse avec un trouble de la mémoire. C'est très pratique, ce qui veut dire que vous mettez vos fringues sur Vinted, vous achetez vos propres vêtements sans vous en rendre compte. Comme ça, vous dépensez de l'argent, mais vous touchez de l'autre côté. C'est un cercle vertueux.
Pas mal.
Numéro 2.
Numéro 2, autre pathologie, la kleptomanie. Voilà,
ah oui,
vous pouvez avoir tout ce que vous voulez sans dépenser 1 centime. Et là, c'est pas mal. Et enfin, ma préférée.
Numéro 1.
Numéro 1, ce sera d'ailleurs l'émission de vendredi. Soyez là vendredi. Vendredi, on va faire une émission sur la fatigue chronique. Ça peut être une solution si vous la mixez avec la fièvre acheteuse. Vous avez envie de tout acheter, mais vous avez la flemme. Ça ne vous coûtera pas cher. J'espère vous avoir aidé.
Ah oui, merci Clément pour cette entrée en matière. Maintenant, on va analyser les choses avec nos spécialistes. Bonjour Joseph Agostini.
Bonjour Julia.
Vous êtes psychologue clinicien, psychanalyste et l'auteur du livre « Je dépense comme je suis » aux éditions Le Duc. Alors Joseph, hein, les soldes commencent demain. Certains Français vont se ruer sur les bonnes affaires. Pour d'autres, ça ne va rien changer. Pour vous, en tout cas, notre manière de dépenser notre argent en dit long sur notre personnalité. Pourquoi ?
Ah mais bien sûr, c'est le nerf de la guerre. Si vous me dites pourquoi vous dépensez ce que vous voulez dans la vie, je devine quand même à peu près qui vous êtes. Il y a quand même un rapport entre notre consommation au quotidien et notre identité.
Ça veut dire qu'un radin, il est radin des sentiments.
C'est souvent lié quand même. Radinerie, il y a quand même quelque chose d'une peur, d'une angoisse de l'autre. Hein. On a peur quand même de se confronter un peu à la réalité, parce que la réalité, elle est précaire. Hein, pour chacun d'entre nous, on ne sait pas trop ce que nous veut l'autre, etc. Quand on est dans la maîtrise, dans le contrôle, quelque part, bah on évite pas mal de choses.
Alors moi, je vais vous analyser, vous, hein, parce que vous êtes psychologue clinicien, psychanalyste, et d'ailleurs,
j'adore.
Je crois que vous, personnellement, il vous arrive d'adapter le prix de vos consultations en fonction des moyens de vos patients. Ça dit quoi de vous, ça ?
Bah, non, alors ça veut dire que moi, je prends mon métier de psychologue très au sérieux, et je pars du principe qu'il faut s'amputer d'une jouissance quand on va chez un psy. Il faut, à un moment donné, donner, payer le prix de la parole. Sinon, on peut mentir 50 ans sur le divan et ne pas avancer. En revanche, en 3 séances, on peut régler pas mal de choses si on est ajusté. C'est-à-dire que si le psy nous fait payer ce qu'on gagne, en quelque sorte. Hein, moi, il m'arrive de prendre 15 euros des patients au RSA et je peux...
Mais jamais gratuit quand même, hein, c'est important.
Mais non, jamais gratuit, parce que la gratuité, si vous voulez, il y a un leurre. Alors, c'est très bien que des centres médico-psychologiques proposent des séances gratuites, mais je pense que quand on va voir un psy en ville, on est prêt à payer le prix. Il y a aussi un engagement. Hein. Le patient n'est pas dupe, hein, il comprend ça. Hein.
Il faut que ça nous coûte, effectivement, d'une manière ou d'une autre. Joseph, est-ce que parler d'argent, c'est un sujet tabou ou tout du moins un sujet sensible, plus qu'en France qu'ailleurs, peut-être ?
Alors, on est quand même dans une mentalité en France. Il y a quand même encore quelque chose du côté de la culpabilité. On a peur de dire ce qu'on gagne, par exemple. Alors, et à raison, hein, parfois, parce que quand on dit ce qu'on gagne, on s'expose, on se met à nu, à poil.
À des jalousies, on s'expose à des jalousies, peut-être, c'est ça, vous voulez dire ?
Il y a quand même quelque chose d'une jalousie, alors qui n'est pas propre à la France. Hein, mais comme ça, cette culture qui veut que la jouissance soit toujours coupable.
Mais il y a des pays où on parle d'argent de façon vraiment plus libre.
Les États-Unis, non ?
C'est très bien, voilà, qu'aux États-Unis, il y a quelque chose de très libéré. Mais l'excès inverse n'est pas forcément à souhaiter. Hein. Il faut une tempérance.
Notre rapport à l'argent, fondamentalement, il est lié à quoi en premier lieu ? À notre éducation, à la société, à la France peut-être, on en parle à l'instant. Qu'est-ce qui est le plus déterminant, selon vous ?
Bah écoutez, je pense de toute manière, quand on est héritier, quand on a une rente, on va déjà mieux. Hein. Il y a quand même quelque chose d'un rapport, bah forcément. Il y a un rapport à la jouissance.
C'est dommage, vraiment, c'est dommage.
Bah oui, quand on est dans une famille qui ne peut pas nous transmettre quelque chose, un patrimoine financier, un patrimoine immobilier, il y a forcément quelque chose d'une précarité, d'une peur du lendemain. Mais il y a aussi ce qu'on peut nous transmettre insidieusement par l'héritage. Et ça, c'est effectivement quelque chose... Parfois, on nous donne de l'argent, mais à quel prix ?
Eh oui, on va en parler plus longuement avec vous tout à l'heure. Merci Joseph, vous restez avec nous. Bienfait pour vous continue dans notre émission ce matin. On vous conseille pour vous déculpabiliser face à votre rapport à l'argent ou même pour pacifier, si besoin, votre relation face à cet instrument de transaction. On y revient très vite, alors restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission Feel Good, Mieux Vivre. Et ce matin, on vous pose cette question. Vous, est-ce que vous avez la fièvre acheteuse ? On scrute notre rapport à l'argent et ce qu'il dit de nous, même de notre façon d'aimer et d'être aimé. Pour en discuter, nous sommes toujours avec Joseph Agostini, psychologue clinicien, psychanalyste et l'auteur du livre « Je dépense comme je suis » aux éditions Le Duc. Joseph, est-ce que notre manière de gérer nos finances peut être un problème plus grave parfois, qui révèle même de la pathologie ? Est-ce que vraiment ça peut être destructeur ?
L'excès est toujours la maman de tous les vices. Hein. À partir du moment où c'est excessif, à partir du moment où on épingre à en mourir, où on ne peut pas payer un restaurant même si on a de l'argent, parce que une petite voix, je crois qu'il y a quand même une voix imposée là, à ce stade, on est presque dans du délire. Pas tout à fait, mais quand même. Il y a quand même quelque chose qui empêche. Quoi. Voilà. Mmh. Et à l'inverse, quand on dépense dans une frénésie maniaque, quand on a besoin de dépenser pour exister, ça en dit long sur une problématique du vide. Enfin, on se sent vide à l'intérieur.
Rempli.
Bah oui, on a besoin d'objets en fait pour se remplir, alors qu'on sait très bien que par intermédiaire d'un film ou d'une lecture, quelqu'un qui va bien peut se nourrir de quelque chose. Quoi.
Comment ça s'installe ce genre de trouble qu'on se sent très vite dès qu'on achète frénétiquement, c'est ça, oui, c'est ça. Ou à l'inverse qu'on soit ultra pingre. Est-ce que c'est parce qu'on a des troubles psychiques qu'on va les projeter sur nos finances ou bien c'est notre rapport à l'argent à l'inverse qui va nous rendre malade ?
C'est un peu les deux, hein, je dirais. Forcément, quand on vit quand même dans une société qui prône comme ça l'ultra consommation. Il y a quand même quelque chose, on y va. Et puis ça peut être un point positif quand on a beaucoup d'argent et quand on le dépense, on se sent valorisé. Donc c'est difficile de distinguer finalement cette sorte d'hystérie capitaliste et cette frénésie maniaque complètement pathologique. Je dirais que c'est la souffrance qui fait la différence. Quand on souffre d'une situation, il s'agit vraiment de la résoudre.
Mmh. Bon, y a plein de radins qui ne souffrent pas. Alors,
on a l'impression comme ça, en surface, mais
c'est
peut-être que...
Eh ben alors, ils n'essaient pas de changer, du coup, on n'essaie pas.
D'accord, mais après, le prix à payer, c'est quand même de faire souffrir l'entourage, bah, c'est d'être isolé. Et puis, quand même, quand on creuse un peu, quand on arrive à creuser avec un radin, parce qu'un radin parle peu en général. Hein,
il y a radin des mots aussi.
Bah oui, il y a quand même quelque chose qui va avec. C'est un peu général à toute sa vie. Mais quand on essaye de creuser, on se rend bien compte qu'il passe à côté de sa vie, un radin. Parce que avoir un peu d'argent et pas pouvoir le dépenser, préférer avoir la plus belle tombe du cimetière plutôt que de faire un tour du monde, c'est monstrueux.
C'est horrible. Et à l'inverse, les gens qui dépensent, les fièvres acheteuses, on pense aux soldes demain, les hystéries autour de ça. Est-ce que on pourrait comparer ça à être accro comme on peut l'être à une drogue dure ou pas à ce point-là?
Oui, je pense, à un moment donné, vous savez,
quand on est accro à l'alcool, on a une addiction à l'alcool, ouais. Et on se remplit avec l'alcool. Donc vous parliez de vide, hein, chez ces gens-là, c'est ça?
C'est un peu la même chose, parce que quand on est à 10 000 de découvert, interdit Banque de France, quand on n'a plus de carte bleue, plus de chéquier, tout ça, parce qu'on n'a pas géré ses comptes, il y a quand même quelque chose qui questionne. Hein, ouais. C'est-à-dire, on est... Mais je vous dis, c'est l'expression à poil, être à poil, c'est, ça renvoie la sexualité et l'argent, c'est un tabou. Ça renvoie à la même chose, au fond. On est tout nu quand on n'a plus d'argent. On se met en danger.
Qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Comment on peut repérer pour soi? Parce que je ne sais pas si on en est conscient, donc on a ce trouble justement, ou alors un proche qui en souffrirait. À partir de quand on peut considérer que ça devient vraiment pathologique, la fièvre acheteuse ou la radinerie extrême, et que ce n'est pas juste une envie de faire du shopping, ou à l'inverse d'être simplement un peu économe, quoi.
Ah non, alors il faut faire quand même la différence, effectivement, faire du shopping, encore heureux, je souhaite à
oui,
tout le monde.
Oui, mais parfois on fait
pouvoir...
tous griller un peu trop la carte bleue, vous voyez ce que oui, je veux dire, alors... mais si c'est passager.
Ou parfois voilà. On a un peu des oursons dans les poches.
Ouais, c'est ça.
Ça arrive aussi.
Ouais, mais je dirais que c'est la souffrance
qui fait la différence.
Voilà,
ouais.
C'est la souffrance de toute manière qui fait la différence. C'est une situation intenable. Et quand on fait souffrir ses proches et qu'on culpabilise aussi, même si on n'a pas une véritable souffrance soi, mais quand je pense à des gens par exemple qui peuvent pas payer pour leurs enfants, qui peuvent pas faire des cadeaux, qui sont complètement, ils n'y arrivent pas. Je pense que ça aussi c'est très questionnant.
Ouais. Alors, pour ceux qui veulent justement faire chauffer la carte bleue de manière mesurée, nous avons en ligne Maïté Despréaux, personnel shopper à Lyon pour Bulle de Mode. Bonjour Maïté.
Bonjour.
Alors, la première question, c'est est-ce que ça vaut encore le coup, franchement, de faire les soldes demain? On peut encore faire de belles affaires pendant cette période-là?
C'est vrai que vous parliez de frénésie tout à l'heure, et avec Internet et ses prix cassés, les soldes, c'était avant les seules périodes de l'année où on pouvait faire de bonnes affaires. D'ailleurs, aujourd'hui, je trouve que la pléthore de possibilités qu'on a de payer moins cher, elle engendre une grande confusion en matière de prix pour les clientes et les clients. On ne sait plus très bien, en fait, le vrai prix des vêtements qu'on achète. Mais on est sûr d'une chose, c'est qu'on n'a plus envie de payer le prix affiché parce qu'on a l'impression de se faire avoir.
Bah oui. Vous avez des conseils pour faire les soldes, justement, sans finir interdit bancaire? Comment on les fait de manière raisonnée? Est-ce qu'il faut se fixer un budget avant? Est-ce qu'il y a des règles indispensables, selon vous, pour limiter les dégâts?
Alors oui, tout à fait. La première chose que je conseille, c'est déjà de faire une liste des pièces qui effectivement nous manquent. Vous parliez de frénésie tout à l'heure. L'idée, c'est ça, d'éviter justement d'aller au-delà de cette liste et peut-être de se fixer un budget à ne pas dépasser, de façon à partir, par exemple, enfin, ça c'est une astuce qui peut être pratique, c'est de ne partir avec uniquement des espèces, dans la limite des 1000 euros bien sûr, et de n'avoir aucun autre moyen de paiement, ce qui permet de limiter les excès.
Ah bah 1000 euros, c'est
royal.
Mais en tout cas, effectivement, le coût des pièces, c'est pas mal. Et justement, vers quel vêtement, pièces, on se dirige en priorité? Est-ce qu'on commence par le plus cher ou alors celles qui sont le plus soldées? C'est quoi votre technique à vous?
Alors, moi, je partirais plutôt du principe qu'il faut vraiment acheter les pièces chères, mais ne pas s'attarder sur des pièces qui ne sont soldées qu'à 20%. Mm-hmm. Pour moi, les vrais soldes commencent à 40 ou 50%. Mm-hmm. Après, on peut aussi bénéficier des bonnes opportunités qu'offrent, par exemple, les villages de marques ou les outlets, pour lesquels on a un prix qui est déjà remisé à la base, puisque ce sont des anciennes collections.
Notre réalisateur, c'est pas ce que ça veut dire, outlet. Est-ce que vous pouvez préciser pour ceux qui ne le sauraient
pas? Bien sûr. Un outlet, c'est un magasin à prix d'usine. Donc, voilà. C'est souvent un magasin qui est créé par les marques pour proposer justement une offre moins chère en recyclant les anciennes collections pour éviter de les détruire.
Et Maïté, je crois aussi que les soldes, c'est une bonne occasion de refaire la garde-robe des enfants, parce que ça coûte une blinde en temps normal.
Grandit tellement vite.
Ouais. Oui, exactement. Ils grandissent tellement vite, ça devient un vrai budget annuel et difficile à rentabiliser si on a un enfant unique ou un garçon ou une fille. Et donc, l'idée, c'est d'acheter en avance, par exemple, en prenant la précaution de prendre une taille supplémentaire, par exemple, sur des pièces qui vont durer toute une saison, comme un manteau, une veste. Éviter les chaussures, parce que ça évolue trop rapidement. Mais par contre, sur des grosses pièces, ça peut être effectivement un bon plan.
Chaussures à éviter, hein, parce que parfois, ils prennent deux pointures en une année. Et moi, je me suis fait avoir, déjà.
En même temps, il faut bien leur mettre des chaussures, Mélanie. Bon, bref, merci Maïté d'avoir été en ligne avec nous pour nous donner vos conseils. Joseph Acostini, vous écrivez que dépenser de l'argent quand on est riche a moins de saveur que quand on ne l'est pas. Pourquoi vous dites ça ?
Parce qu'à un moment donné, il est prouvé, les études prouvent, qu'à partir d'une certaine somme d'argent, de 75 000 euros, je crois, l'argent perd de sa valeur.
75 000 euros par an ?
Par mois ! Je parle
beaucoup
des ultra-riches, là.
En revanche,
d'autres études prouvent qu'à partir de 5 000 euros, on envisage, 5 000 euros donc par mois, on envisage la vie complètement différemment. Ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, dans les grandes villes, on sait très bien, même avec 2 000, 2 500, 3 000 euros par mois, c'est encore difficile. On vit dans de petits espaces et puis il faut compter. À partir de 5 000 euros, il y a quand même une sorte de relativité qui s'installe et on peut vivre différemment finalement le rapport à l'argent.
5 000 euros, excusez-moi, en couple ou tout seul, vous savez ça ?
Ah non, 5 000 tout seul.
75 000, apparemment, on perd pied, on risque rien au moins.
75 000, il n'y a plus cette espèce de, comment dire, d'au-delà, vous voyez, de plus de plaisir, quoi. Il y a comme quelque chose le confort est tel, en quelque sorte, qu'on peut être blasé rapidement.
Si vous avez un patient qui gagne 75 000 par mois, vous lui demandez combien ?
En consulte, du coup.
Alors, vous savez, ça m'est arrivé un jour, il y a un patient qui est arrivé avec sa montre Rolex, comme ça, qui voulait me montrer qu'il avait beaucoup d'argent. Et à la fin, je lui ai demandé 1 euro symbolique.
Ah, vous le faites à l'envers, du coup.
J'ai trouvé ça intéressant, effectivement, pour lui faire comprendre que la parole a une valeur.
On dit souvent que l'argent fait le bonheur ou ne le fait pas, justement. Vous pensez que c'est vrai ou pas au final, quand on lit ces deux notions, argent et bonheur ?
Alors, moi je pense que l'argent peut faire le bonheur, mais peut aussi faire notre malheur. C'est-à-dire, on peut creuser en quelque sorte notre malheur en ne sachant pas vivre notre rapport à l'argent. Parce que l'argent, c'est tout le temps là, finalement. Il y a quelque chose, ça rejoint la sexualité, hein. Il y a quelque chose d'un... C'est un plaisir basique, hein. On aime dépenser, on aime se faire beau, se faire belle, à un moment donné, montrer aux autres aussi qu'on a, hein. C'est quelque chose d'extrêmement
humain.
Qu'on
a réussi quelque part, c'est ça aussi.
Oui, le paraître, c'est l'envie, c'est l'argent quand même. Hein. Mmh. Il y a cette idée que quand même avoir de l'argent, en avoir. Hein. Voilà, toujours la même chose. Hein. Comme ça, la virilité, la féminité, l'opulence. Il y a comme ça ces choses-là qu'on a envie de montrer aux autres, mais qui peuvent dysfonctionner et nous rendre très malheureux si on ne sait pas bien les doser. Mmh.
C'est compris, vous restez avec nous, bien fait pour vous. Se poursuit dans très peu de temps. L'argent, enfin la manière dont nous le dépensons, en dit long sur qui nous sommes et il impacte même nos relations. On va en parler dans un instant, alors à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On fait le point sur notre rapport à l'argent. À la veille des soldes d'été, on s'est dit que c'était une bonne idée. On fait le tour de ce sujet avec Joseph Agostini, psychologue clinicien et psychanalyste. Alors, on a vu, Joseph, que dépenser de l'argent, faire des achats, pouvait se faire de manière obsessive parfois. Mais à l'inverse, est-ce que gagner de l'argent, ça peut aussi être addictif, selon vous ?
Ah, mais complètement. À partir du moment où on a goûté, on ne peut pas, en quelque sorte, enfin on le voit tous les jours, des gens comme ça qui préfèrent rester dans des vies souvent très sous de l'urgence, de la peur, de l'angoisse, du stress, etc., plutôt que d'aller à la campagne et élever des chèvres dans le Larzac. Non, c'est une drogue. C'est-à-dire qu'ils ont besoin, comme ça, de gagner beaucoup.
Et gagner plus, plus aussi, toujours.
Le toujours plus, finalement, c'est aussi lutter contre une angoisse existentielle. Parce qu'on ne sait pas pourquoi on est dans le cosmos. En quelque sorte, personne n'est renseigné davantage, hein, je crois, j'espère. C'est bon signe. Quand on pense comme ça, je pense effectivement, on sait qu'on ne sait pas. Et l'argent nous rassure aussi beaucoup. Parce qu'on sait qu'on a.
Ouais.
Quand même, avoir quelque chose, pouvoir s'endormir sur l'oreiller en se disant « bon voilà, j'ai gagné beaucoup d'argent », il y a quelque chose d'extrêmement anxiolytique.
Oui, et c'est pour ça qu'il y a des addictions aux jeux d'argent, je pense au casino, c'est la même
alors
c'est
que
le
ces
même
joueurs,
truc.
Ils vont plus que perdre, enfin plus perdre, mais oui. Perdre plus que qu'il gagne. Oh là,
mais
j'ai du mal
ça.
Ce matin.
Mais vous savez, on a toujours tous, autant que nous sommes, on a toujours un manque au fond de soi et on a toujours une petite étoile qui scintille, on aimerait avoir quelque chose. Et cette petite étoile, on n'arrive jamais à l'attraper. Et c'est bien qu'on n'arrive jamais à l'attraper. Mais le casino, c'est la même chose, sauf que la petite étoile qui scintille, elle vaut beaucoup, beaucoup d'argent et on a très, très peu de chances de l'avoir. Et on peut se retrouver piégé.
Alors le but, on parlait des radins tout à l'heure, on sait que ils sont radins de beaucoup de choses et pas seulement d'argent, de mots, peut-être même d'amitié, parce qu'effectivement quand vous avez un copain qui ne vous invite jamais au resto, au bout d'un moment ça gonfle.
Mais... Ça sent le vécu, Julia.
Oui,
pas de moi. Hein.
Non, je vois, pas vous, surtout pas. Mais le but c'est quoi finalement
on
de ces
radins? On a le
même. On a le même copain, ouais. C'est quoi? C'est d'être riche ou ça va au-delà de ça? Quelle est leur motivation pour ne jamais vouloir dépenser un centime?
Je pense qu'il y a cette manière, je crois qu'il y a une méfiance à l'endroit de l'autre. Je pense que d'abord, il y a une peur de l'autre. Il y a une peur de ce que l'autre peut nous faire, au fond, hein, quand on a peur de dépenser, quand on a peur de faire des cadeaux, quand on a peur de payer un restaurant, donc de passer un moment de convivialité. Il y a quand même une méfiance qui s'installe, je veux dire. C'est pas la générosité et l'altruisme.
Hein. Oui, mais enfin, ils n'ont pas peur. Au moment de l'addition, ils sont ravis qu'on les invite.
Ils sont ravis d'aller aux toilettes aussi, à ce moment-là.
Ils sont ravis qu'on les invite, mais je pense que les radins sont de grands fragiles et ils s'en remettent complètement à l'autre. Et ils pensent que l'autre est plus puissant. Hein, l'autre est capable et eux sont bien incapables de vivre.
Alors justement, on a une question de Saïd qui lui n'est pas radin. Vous allez l'entendre, il nous a envoyé un vocal. On l'écoute tout de suite.
Salut Mélanie, salut Julia. C'est vrai que j'ai vraiment du mal à mettre de côté. Je suis dans la fleur de la jeunesse. C'est compliqué de mettre de côté. En plus de ça, je suis étudiant. Ça veut dire que j'ai un loyer à payer. Et le problème, c'est que tout ce qui me reste, bah, je vais le mettre directement dans la nourriture, dans les vêtements, dans les vacances. Et je ne mets jamais rien de côté pour le futur et je pense que c'est un gros problème. Est-ce que vos invités peuvent m'aider?
Alors qu'est-ce qu'on peut conseiller à Saïd qui n'a que 21 ans mais qui quand même déjà y pense? Il dit je devrais peut-être mettre de côté pour le futur mais je ne le fais pas, je dépense tout mon salaire. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Il n'a pas l'air d'être pathologique non plus, non? Il est jeune.
Ah mais non, mais il faut quand même mettre de côté. C'est vrai, moi je trouve que là, Saïd, en l'entendant parler, je me dis que...
Vous n'êtes pas inquiet?
Comme vous dites, voilà, c'est ça. Il est jeune, mais il est jeune, il se pose des questions, c'est déjà finalement, c'est déjà fait, en quelque sorte.
Ça. Il a un bon rapport à l'argent, après tout. Et si vraiment, je reviens au radin, excusez-moi, si je veux soigner un mari, une femme, un enfant radin, parce que les enfants, j'ai déjà vu des enfants radins,
c'est
incroyable. Quels exercices on peut mettre en place avec ceux-là pour les aider? Est-ce que c'est indécrottable?
Écoutez, moi je pense qu'un radin, il faut lui parler des plaisirs, des petits plaisirs de la vie. Il faut l'amadouer, il faut lui donner envie de vivre autre chose qu'un rapport à la monnaie. Il y a quelque chose comme ça, à la matérialité. Il y a de l'immatériel dans le fait de profiter de la vie, de profiter de l'autre. Il faut lui donner envie, il faut lui donner faim à un radin. Moi, je pense que c'est ça. Il faut
mais
lui
un vieux radin qui est bien radin depuis longtemps, c'est pas plutôt chez vous qu'il faut l'amener? J'allais dire, parce que pour lui parler, c'est bien gentil.
Radin,
mais
j'en veux pas, j'en veux même pas moi. Non, c'est mort. À un moment donné, effectivement, je suis d'accord, quand ça s'est trop enquisté, on peut rien faire. Non, mais ça, je pense qu'à un moment donné...
Non, mais une bonne analyse de 2 ans avec vous, là, ça peut peut-être aider,
mais
non?
Oui, il fuit, vous savez que le radin... Il fuit aussi. Il y a beaucoup de gens qui fuient leurs problématiques. Ils n'en ont pas envie. Et puis, ils vous renvoient aussi comme en miroir que vous servez à rien et que vous les...
Et que vous leur coûtez cher.
Et que vous leur coûtez cher, absolument.
Et un enfant radin, j'y reviens parce que j'en connais certains qui ne veulent jamais sortir rien du tout de leur tirelire. On a plein d'enfants en régie d'ailleurs, on les salue là, qui viennent nous écouter justement. Les enfants radins, on peut encore faire quelque chose, c'est pas enquisté. Qu'est-ce qu'on peut... Celui qui ne veut jamais sortir un centime de sa tirelire pour faire un cadeau à sa sœur par exemple ou à ses parents, on fait quoi?
Oh là là, ça c'est vrai. Mais alors ça, vous voyez par exemple, la fratrie, c'est source de jalousie. S'il ne veut pas faire un cadeau à sa sœur, c'est parce qu'il est mort de jalousie et parce qu'il faut lui parler, donc il faut le rassurer, cet enfant. Il faut lui dire qu'on l'aime aussi, il faut lui dire que c'est... Bon voilà,
oui, parce que la tirelire est bien pleine, hein, par contre, mais elle ne descend jamais.
Mais vous savez bien, se cachent quand même des rapports beaucoup plus profonds, heureusement d'ailleurs. Un enfant radin, c'est un enfant fragile.
Vous allez loin dans votre livre en disant que l'économie capitaliste est fondée sur une forme d'addiction. D'ailleurs, addict signifie à l'origine être endetté, c'est bien ça ?
Oui, absolument. Quand on est addict, ça veut dire qu'on n'a pas réglé une dette avec quelqu'un ou quelque chose. Et c'est une problématique transgénérationnelle, bien souvent. Hein. On se rend compte que la personne a un sentiment de, a le sentiment d'avoir été déloyal avec quelqu'un, le sentiment de n'avoir pas pu. Hein, pas pu donner. Et donc, il doit rendre inconsciemment. Et comme ça, il se cramponne à son addiction.
Mais il y a des gens qui adorent payer. Vous avez remarqué ça ?
Oui, mais payer, c'est très antalgique. Hein. Il y a quelque chose qui fait plaisir aussi dans le fait de faire un cadeau. Quand on va bien faire un cadeau, bah, mais c'est fantastique.
Mais il y en a qui
c'est
payent tout le temps. Comme ouais, ça aussi,
moi,
ça
j'ai des copines qui payent tout le temps.
En revanche, quelqu'un qui paye tout le temps, ça veut dire que c'est une personne qui n'a pas confiance en elle. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'acheter l'autre. Mmh. Et elle ne se sent pas capable de vivre une relation ajustée à l'autre sans payer, sans sortir son porte-monnaie. Mmh.
Joseph Agostini, on entend souvent parler dans des films ou dans des séries de la thérapie par le shopping, la retail thérapie. Ça veut dire soigner sa déprime ou son anxiété en faisant les magasins. Vous y croyez à ça, franchement?
Non, si c'était si simple, franchement, je crois que les choses seraient super pour tout le monde, on serait heureux. Moi, il n'y a pas de recette du bonheur, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Hein, le travail est un mot, à mon avis, beaucoup galvaudé. Vraiment travailler sur soi, vous savez, ce n'est pas donné, il faut mettre le prix psychique. Et à la fin de ce chemin, oui, je pense qu'on peut avoir un peu de quiétude.
Et est-ce que ça peut rendre les gens violents, l'argent, parfois ? Parce que je pense notamment aux familles hein, qui se déchirent au moment d'un héritage. Pourquoi ces crispations, ce tabou, même l'argent dans le divorce, c'est toujours des points d'achoppement, mais terribles ?
Oui, vous savez, moi je me méfie des familles où on dit « ce qui est à toi est à moi », etc., dans une sorte d'angélisme. Non, c'est pas vrai. Les rapports humains, c'est fait d'agressivité, c'est fait de jalousie, c'est fait d'envie. Il faut les détisser. Sinon, on est très malheureux. Hein. Il y a des gens qui se sentent généreux et qui ont été malheureux toute leur vie, au final, parce qu'ils ont voulu acheter l'autre en permanence et ils se sont retrouvés sans rien, mais sans rien à l'intérieur d'eux-mêmes. Et donc, je pense qu'il faut faire un travail pour vivre, pour exister, pour se sentir vraiment, véritablement exister et délivrer de l'argent.
Et justement pour ne pas s'empoigner avec ses frères et sœurs au moment d'un héritage. Parce que j'ai l'impression qu'ils règlent leurs comptes à ce moment-là. Mmh. Il faut les régler avant les comptes.
Ouais, il faut se parler vrai, il faut pas être dans l'angélisme, parce que l'angélisme, c'est casse-gueule. Finalement, il y a des choses qui doivent être dites quand on n'a pas supporté quelqu'un, quand on n'a pas pu l'aimer, quand on l'a même haï en famille. Mais les choses se disent, tout est récupérable. On peut tout soigner avec la parole.
Bon, Joseph Agostini, on va faire une petite conclusion. Qu'est-ce que vous nous recommandez d'un point de vue général, s'il n'y avait même qu'un conseil peut-être pour en tout cas, vivre ça de manière très sereine. Est-ce que vous avez un conseil pour pacifier notre relation à l'argent ?
Moi, je dirais que l'argent, c'est quelque chose d'essentiel, indispensable à penser. Je pense qu'il s'agit de penser l'argent. Véritablement, ce que c'est pour nous de dépenser, ce que c'est pour nous de garder. Il ne faut pas faire l'économie en disant « bon, c'est dérisoire, l'argent, moi je peux vivre sans » ou « c'est après tout, ça me fait plaisir, mais sans le penser ». Je pense que la clé, hein, c'est vraiment la pensée et l'analyse.
Eh bien, merci beaucoup Joseph Agostini pour
merci
cet entretien et tous vos bons conseils. D'autres encore sont à retrouver dans votre livre. Je rappelle son titre « Je dépense comme je suis » aux éditions Le Duc. Merci encore Joseph. Julia, maintenant on va passer à toute autre chose, à nos tendances, celles qui peuvent vous faciliter, vous égayer le quotidien. Avec Soizic Belin, on va découvrir ce qu'est l'art de la mixologie, l'art de préparer de beaux et bons cocktails, c'est apparemment à la portée de tous. Et puis avec Marion Sauveur, on va partir en pique-nique, elle va revenir sur les règles d'or pour que tout soit parfait pour le confectionner. Donc préparez vos nappes à carreaux et à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous. Vous êtes de retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être, dans lequel on tente de vous faciliter le quotidien tous les matins de 11h à midi en direct. Nous voilà à présent dans notre partie consacrée aux tendances. Et je me tourne d'abord vers vous, Marion Sauveur. Bonjour.
Bonjour.
Oh, qu'est-ce qu'il y aura de bon dans votre pique-nique ce matin ? Mettez-nous un peu l'eau à la bouche. Là.
Bah justement, c'est l'été, on va partir pique-nique. Et je vous ai apporté un très beau panier pique-nique.
Il y a un radis, déjà.
Voilà, des petits légumes. Légumes, de la charcuterie, il y aura de quoi faire plein de recettes pour aller pique-niquer tous ensemble.
Et du fromage aussi.
Mais
merci
oui.
Marion. Alors avant de jeter notre nappe fleurie sur l'herbe et de sortir le saucisson, on va déjà prendre un petit apéro grâce à vos conseils de mixologue en chef. Soizic Belin, bonjour.
Bonjour.
Alors rappelez-nous de quoi il s'agit la mixologie, on veut tout savoir.
Alors tout d'abord, je voudrais revenir à la base de la base, Julia Mélanie, adolescente, quand j'ai vu ce film, Cocktail, souvenez-vous. For goodness sake, I got Eh bien, je suis tombée amoureuse de Tom Cruise.
Oh, tiens,
hein.
Ben,
je ne sais pas la seule. Hein. Enfin, de Brian Flanagan, ce barman sexy qui faisait tournoyer les bouteilles un peu comme ça, comme un virtuose. Mais quel sexe à pile. Donc, eh bien, logiquement, mon premier job d'été fut barmaid. Je voulais pouvoir faire pareil et rencontrer un Brian Flanagan. Mon résultat des courses, je ne sais pas jongler avec les bouteilles et je n'ai pas rencontré Brian. Alors, quelques années plus tard, pour vous, chers auditeurs, je réitère l'expérience, mais cette fois-ci, donc, un cours de mixologie. Alors, qu'est-ce que la mixologie ? J'ai testé un cours de mixologie avec Loïc, donc pas avec Brian. Eh bien, c'est l'art de mixer les ingrédients, de connaître les accords possibles. Alors, Loïc n'aime pas ce terme. Il préfère barman spécialiste en cocktail. Comme ça, tout le monde est d'accord, finalement.
Bon. Et comment ça se déroule, alors, ce cours de mixologie ?
Eh bien, j'ai eu droit à un petit cours privé, Happy Few. Et, mais habituellement, vous pouvez être plusieurs, hein, 4, 5, 6. Mais cela varie, évidemment, parce que j'étais avec un cours sur mesure qui s'appelle Parisian Cocktail Club. Et il y en a plein d'autres. Hein. Alors, il y a différentes thématiques. Moi, j'ai choisi cocktail classique, mais vous avez aussi les cocktails création. C'est le level au-dessus. Quand vous connaissez les classiques, vous pouvez faire de la création. Et puis sinon, il y a des plutôt sympas. Il y a le cocktail, les cocktails des films. Enfin voilà, il y a plusieurs thématiques. Cocktail à base de gin, cocktail à base de rhum. Il y en a 36.
Bon, vous êtes parti sur du classique.
Voilà,
en tout cas.
Classique. Donc nous, on a fait un Bloody Mary, un Daiquiri, un Old Fashioned.
Je ne sais même pas ce qu'il y a là-dedans, moi. Mais vous savez, vous jouez un petit peu.
Pas trop de l'alcool, je crois.
C'est l'alcool.
Avec
c'est
modération, bien sûr.
Avec modération. Alors le barman spécialiste va nous expliquer quels sont les ingrédients qui les composent, le pourquoi de cet assemblage, quel impact va avoir tel ingrédient sur le rendu final, les dosages. Il fournit évidemment le matériel de base, le doseur, la passoire ressort, la cuillère à mélanger, le muddler et le fameux checker. Mmh. Alors, tous les cocktails doivent-ils être checkés ? La réponse est non. Trop de glaçons, c'est la question qu'on se dit souvent, on se dit mais il a mis trop de glaçons, il n'y a pas assez d'alcool. Eh ben non, ça ne tue pas le cocktail. Et comment checker ou ne pas checker ? Donc je vous embarque avec moi, on a checké.
Comment on check ? Le but, on a dit, c'était de taper d'ici à ici. Donc, pour vous dire, dans un des meilleurs bars de Paris, par exemple, l'expérimental Cocktail Club, comment ils checkent eux ? Ils checkent comme beaucoup de gens font. Du son.
Rien d'extraordinaire, alors, on n'est pas dans cocktail, on fait.
Exactement. Alors, moi, après, c'est un peu aussi notre patte. Il y a des gens, ils vont checker plus que d'autres. En fait, c'est aussi. C'est
un côté spectacle.
Voilà, c'est acteur. Par exemple, je crois que j'ai pas pris la routine. Mon pack, c'est vrai, c'est comme ça.
Ah,
il y a du glaçon, mais c'est bon, ça ne tue pas le cocktail apparemment. Et les cocktails, ils ont aussi des origines, je crois, le nom du créateur, des anecdotes.
C'est ça, c'est pour ça que ces cours sont passionnants, parce qu'au-delà de la simple pratique, hein, comme checker, vous avez un côté didactique, historique, culturel. Vous redevenez un enfant finalement avide de sa petite histoire. Le Bloody Mary, par exemple, il y a différentes versions, mais j'en ai retenu une, celle qui fait référence à Ernest Hemingway, qui voulait continuer à boire des cocktails sans que se prendre une réflexion de sa femme, hein, Mary, le soir en rentrant, qui lui disait t'as encore trop bu. Alors, il demanda au barman du Harry New York Bar à Paris de lui confectionner un cocktail inodore à base donc de jus de tomate qui camoufle la vodka.
Oh, c'est l'histoire de couple en fait derrière ce couple.
Bah, c'est génial. Et c'est pas mal aussi de ne pas trop promouvoir l'alcool. Hein. Franchement, c'est bien aussi de s'en passer. Alors, est-ce qu'on peut faire des cocktails originaux sans alcool mais qui sortent du Virgin Mojito ?
Et oui, on appelle ça les mocktails et on écoute Loïc.
Oui, on peut s'amuser à créer des cocktails sans alcool. C'est aussi un pari. Parce qu'en soi, on fait beaucoup de cocktails avec alcool. Alors, pourquoi on fait des cocktails avec alcool ? C'est vraiment parce que l'alcool apporte des saveurs, apporte un kick, comme on dit, donc une complexité. Mais derrière, on peut utiliser aussi d'autres choses et des produits un peu plus farfelus pour les cocktails sans alcool. Par exemple, on peut faire un Virgin Mary, donc tout simplement du jus de citron jaune, du jus de tomate, du sucre, du sel de céleri, du tabasco et de la sauce Worcester. Ou alors, on peut faire aussi des cocktails à base de basilic, par exemple.
Oh, basilic, moi j'aime bien l'idée.
Oui. Donc à tous les barmaids qui nous entendent, veuillez allonger votre carte de cocktails sans alcool, c'est l'été et franchement, un peu de diversité pour ceux qui veulent faire du all night long sans avoir une gueule de bois le lendemain et pour les femmes enceintes. Le message est passé, j'espère. Et puis pour finir, j'ai demandé à Loïc quels étaient les cocktails les plus prisés du moment.
Les cocktails qui sont beaucoup plus en vogue actuellement sur Paris, donc c'est toujours les classiques. Le gin tonic, le mojito, la caipirinha, le Moscow Mule. Mais du coup, nous, en fait, le but, en fait, c'est d'amener aussi une autre expérience au client, quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc derrière, on va, par exemple, peut-être utiliser, on va dire, le Moscow Mule. Et nous, notre but aussi, c'est faire un dérivé, par exemple, pour l'amener sur des saveurs inconnues du client.
Donc, chers auditeurs, en cette période estivale qui débute, apprendre à faire des cocktails, c'est une chouette idée d'activité en couple. C'est aussi une idée sympa pour rencontrer d'autres amateurs de long and short drink. Et il y en a partout en France, ça tombe très bien.
Merci beaucoup, Soazic. Et on rappelle qu'avec l'alcool, cocktail ou pas dans le cocktail, d'ailleurs, c'est 2 verres par jour et pas tous les jours. Retenez ça, les enfants en régie, les enfants du collège La Rochefoucauld, la 5e B. On vous dit merci d'être avec nous, évidemment. Écoutez bien surtout ce qui va suivre, parce que ça, le pique-nique, on peut y aller sans modération. Le pique-nique avec Marion Sauveur. Bonjour Marion.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce pique-nique ? Il y a beaucoup de choses sur la table. On a hâte de goûter avec Julia.
C'est l'été. On va aller se poser sur l'herbe pour déjeuner. Il suffit de pas grand-chose. Une nappe, de bonnes victuailles et des amis avec qui partager des gourmandises. Ça, c'est que du bonheur. Est-ce que vous savez d'où vient ce mot pique-nique ?
Pas du tout.
Non. Alors, il remonte au XVIIe siècle. Piquer signifiait picorer, comme les poules hein, qui picorent des graines. Et le mot nique désignait une petite chose sans valeur. Quand on assemble les deux mots, ça devient le fait donc de picorer des petites choses.
Julia n'avait pas la même signification.
Oui, voilà, mais au XVIIe siècle, c'était différent.
Ah, d'accord. Tu parles.
Donc, un bon repas convivial en extérieur. Et à l'époque, on disait même faire un repas à pique-nique. On pique-niquait au Moyen-Âge. Les paysans avaient l'habitude de faire un vrai repas quand il travaillait dans les champs. Et le pique-nique en lui-même s'est développé à la Renaissance, dans l'aristocratie, lors des parties de chasse, par exemple. Son apogée, c'est le 19e siècle, lors des fêtes républicaines, quand chacun profitait des grands et sublimes jardins qui étaient enfin ouverts au peuple, qui étaient interdits jusque-là, pour organiser donc des bons repas sur l'herbe.
Alors, les indispensables du pique-nique, c'est quoi ?
Alors, la nappe, bien entendu, pour bien sûr disposer toutes ses affaires et poser ses petites fesses dessus. Pour transporter le pique-nique, vous avez de magnifiques paniers à pique-nique,
comme celui qu'on a en studio,
qu'on trouve à un peu plus de 100 euros chez Nature et Découverte.
Ah, c'est juste, oui, c'est ça, parce que il est grand quand même, c'est un grand
très
panier grand en osier.
Panier en osier, avec tout le nécessaire à l'intérieur. On a les couverts, les assiettes, les verres.
Et des tas de rangements partout, il est top ce panier.
En céramique, hein, les assiettes, des vrais couverts, c'est beaucoup plus écologique. Et puis on a une pochette isotherme, comme ça on peut tout transporter. Il y a même un tire-bouchon, ça c'est pour faire les cocktails. Quand on est sur l'herbe directement.
J'adore ce panier, il est très beau. Bon, on va quand même passer aux choses sérieuses parce que c'est ça qui nous intéresse.
Qu'est-ce
qu'on mange, même si j'ai déjà commencé à goûter un petit peu.
Alors, il y a de plus en plus d'artisans qui proposent leur propre panier pique-nique. Pour vous simplifier la vie, c'est le cas de la Maison Véro que vous êtes en train de déguster là en studio.
Je ne savais pas qu'on pouvait manger des asperges crues comme ça, c'est délicieux.
Bien sûr, alors des paniers pique-nique avec, bien sûr, la Maison Véro, ce sont des charcutiers. Donc, vous avez.
Je ne savais pas qu'on pouvait manger des pâtés en croûte.
Le pâté en croûte vice-champion du monde. Du jambon persillé, de la fourme d'Ambert, il y a du fromage, il y a plein de légumes. C'est en format apéritif ou repas complet, 84 euros pour 4 personnes. Il y a même du pain, des petits légumes à croquer, ça c'est très bien. D'autres artisans proposent des paniers pique-nique. Certains sont répertoriés sur le site lebonpique-nique.com. Alors le principe est tout simple. Vous choisissez votre destination de pique-nique et le site vous indique quel artisan propose un panier. Par exemple, vous êtes ce week-end dans les Landes. Vous pouvez choisir la ferme Comet Tournier à Toulousette qui propose par exemple une tartinade de lentilles au magret séché, une salade de confit de magret et un moelleux au miel et coulis de framboise. Là par exemple, c'est 18 euros par personne, il suffit d'aller le chercher. Voilà. Certains chefs même se mettent à leur propre panier, comme Christophe Schmitt au domaine de Terre Blanche à Tourette, là on est en Provence. Et au menu par exemple, une salade niçoise au thon confit, un suprême de volaille, des pois chiches et des olives et une tropézienne framboise et fleurs d'oranger. On est dans les produits locaux, conviviaux. Là, c'est un petit peu plus cher, c'est 55 euros, mais on profite du domaine.
Et qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour un pique-nique, mais fait maison, mais simple à réaliser quand même ?
Alors, simple, hein, pour Julia, c'est important.
Simple. La première chose, sont les tartinables. Comme ça, on apporte du pain, on a du houmous ou du caviar d'aubergine ou des tartinables à l'artichaut. C'est tout simple à faire. On fait cuire le légume. Quand il est cuit, on mixe avec un peu d'ail, du parmesan, des pignons de pin, beaucoup d'huile d'olive et ça, c'est prêt. On peut s'amuser aussi à remplacer les cakes dont on a l'habitude avec des babkas salées par exemple, pesto chèvre, ça marche très bien. On n'oublie pas les petits légumes comme vous avez dans ce panier de la Maison Véro.
J'avoue qu'on a surtout pris de la charcuterie jusque-là, mais on va goûter les légumes.
Mais les légumes frais, ça marche très bien. Alors pour changer des tomates à la croque au sel, vous pouvez préparer du melon, des radis, des petites carottes ou des poivrons bâtonnets et on les accompagne d'une petite sauce maison, c'est facile à faire. Yaourt grec, un petit peu de citron, des petites herbes et c'est prêt.
Et en dessert, on peut avoir quoi, par exemple?
Bah, attendez, avant le dessert, les chips. Ça, c'est l'indispensable du pique-nique. Moi, j'adore les chips. Et puis, l'avantage, si on les fait maison, eh ben, on peut les décliner pas seulement en pommes de terre, mais par exemple avec des patates douces. Donc, on commence par faire des rondelles de patates douces. Et l'important, c'est de faire des tranches très fines à la mandoline. On les masse avec de l'huile d'olive et du sel, un petit peu de piment d'Espelette avant de les poser sur une plaque du four recouverte de papier cuisson. Surtout, on ne les superpose pas, sinon ça ne fonctionne pas. Et quand elles commencent à dorer sur les côtés, c'est qu'elles sont prêtes.
Et en dessert.
Ouais, en dessert cette fois.
J'y reviens, en dessert, n'oublions pas le dessert.
L'idéal sont les petits bocaux. Vous pouvez réaliser par exemple un framboisier en pot. Donc vous allez prendre vos gâteaux secs du placard que vous allez émietter.
Je le ferai pour Julia parce que là je pense qu'on a dépassé son niveau.
Si, hein, c'est tout simple. Par-dessus, vous mettez les petites framboises et ensuite vous réalisez une crème au mascarpone. Juste, voilà, un jaune d'œuf avec du sucre, ça blanchit, mais si on fouette tout doucement comme ça, c'est bien
mousseux.
Marion a dit on
ajoute Julia, juste, mais bon, même ça, c'est compliqué, je crois.
On met au réfrigérateur et ensuite, on apporte dans notre panier avec le sac isotherme.
Qu'est-ce qu'on boit ?
Et on boit, bien sûr, des boissons rafraîchissantes, ça, c'est important. Pour changer des jus, je vous propose des eaux aromatisées. Je vous en ai fait une ici.
Ouais, on va boire, d'ailleurs.
Alors...
Qu'est-ce qu'il y a dans cette eau ? C'est de l'eau, hein, du robinet, voilà, j'imagine.
L'eau du robinet, framboise, menthe. J'ai cueilli la framboise et la menthe ce matin. Vous pouvez vous amuser. Fraises, citron, vert, abricot romarin, citron, estragon.
Faites-vous
c'est frais,
plaisir.
C'est agréable.
Eh bien, merci beaucoup Marion. Je rappelle qu'on retrouve toutes vos recettes sur europe1.fr. Alors, après ce déjeuner dans l'herbe, eh bien, on va aller déjeuner tout court puisque notre émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé une heure agréable en notre compagnie. Nous serons de retour demain dès 11h. Et Mélanie, quel sera notre grand sujet du jour ?
Alors demain, une émission un peu camoulox, mais vous allez comprendre si je vous dis qu'il pleut plus en Bretagne qu'ailleurs en France, que pour avoir une bonne mémoire, il faut manger du poisson ou encore qu'il faut manger des carottes car ça rend aimable. Mmh. On a tous entendu ces phrases, mais est-ce qu'elles sont vraies pour autant ? Eh bien, on va faire le point et surtout démonter quelques fake news, une bonne fois pour toutes, tout ça avec l'aide de la science.
Mais pour le moment, place à l'info sur Europe 1, car à suivre, c'est Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Quel est le programme, Romain ? Bonjour.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Dans Europe Midi, on va évidemment parler de la situation politique. C'est une impasse politique dans laquelle la France se trouve. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tiens, est-ce qu'il faudrait un gouvernement d'union nationale ? On va en parler. Je vais vous entendre sur ce sujet. Il y a déjà beaucoup d'appels, vous appelez le 3921. On sera également avec le député LREM Roland Lescure et le républicain Guillaume Guérin.
Eh bien, merci beaucoup Romain. À tout de suite.
À tout de suite.